Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonsoir à tous, 14h à Bangui, bienvenue. Centrafrique, la force française Sangaris, engagée dans le pays depuis décembre 2013, va passer de 1700 à 900 hommes seulement d'ici fin juin. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole de l'armée française. Un retrait qui s'inscrit dans un processus de désengagement amorcé. Il y a déjà plusieurs mois, a souligné le colonel Gilles Jaron. En Centrafrique, toujours, les examens du brevet des collèges fortement perturbés hier à Bangui par des accrochages entre anti-balaka et éléments de la MINUSCA, la force onusienne. Les explications de l'inspecteur d'académie Josias Renaba. Il est au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Il y a eu affrontement entre les anti-balaka, d'après ce que nous avons entendu, avec des éléments de la MINUSCA, je crois, burundaise. Et bon, comme les tirs étaient nourris, les enfants ont eu non pas des blessures par la balle, mais ils ont été sous le choc. Donc beaucoup sont évanouis, d'autres ont eu des convulsions. On les a tous amenés à l'hôpital communautaire d'abord, et certains ont été amenés à l'hôpital général, précisément là où il y a les médecins sans frontières. Donc ça faisait à peu près 75 élèves au niveau de l'hôpital communautaire et 9 au niveau de l'hôpital général. Donc le cabinet que j'ai informé, tout comme le ministre, se sont rendus sur place pour assister les élèves.
Josias Renaba, il est inspecteur d'académie à Bangui. À l'origine de ces affrontements, selon des témoins, les efforts des troupes burundaises pour récupérer un véhicule volé par les anti-balaka et le rendre à son propriétaire. Amina Garib Fakim a été officiellement élue aujourd'hui par l'Assemblée nationale mauricienne comme nouvelle présidente de cette île de l'océan Indien, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire du pays. L'Assemblée nationale mauricienne a adopté à l'unanimité, d'après l'AFP, une motion du Premier ministre Anerhoud Jugnot proposant la nomination de Mme Garib Fakim à la présidence de la République. Le chef de l'opposition parlementaire Paul Béranger ainsi que les membres de l'opposition ont également voté en faveur de la motion. M. Béranger a toutefois regretté que le gouvernement ne l'ait pas autorisé à s'associer à ce test. Âgée de 56 ans, Amina Garib Fakim, scientifique renommée, va prêter serment comme présidente de la République vendredi après-midi, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction strictement honorifique depuis l'indépendance de l'île Maurice en 1968.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un couple de touristes français a été agressé par des voleurs dans l'état d'Ebonyi, dans le sud-est du Nigeria. L'homme a été tué, sa femme a été blessée et des biens dont de l'argent ont été volés, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police nigériane Emmanuel Ojukwu. L'ambassade de France à Abuja a confirmé ce crime qu'elle a qualifié de purement crapuleux. Et le président nigérien Muhammadu Buhari se rend aujourd'hui au Tchad, deuxième étape de son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir après le Niger. Une tournée placée sous le signe de la lutte contre Boko Haram. Le général Buhari doit avoir des consultations à ce sujet avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Les pays de la coalition anti-Boko Haram ont finalement trouvé un homme à poigne pour diriger la force d'intervention militaire régionale qui doit combattre le groupe islamiste nigérien. Il s'agit d'un haut gradé de l'armée nigériane, le major général Tuku Yusuf Bourate, qui a assumé hier ses fonctions de commandant en chef de la force d'intervention conjointe multinationale à N'Djamena au Tchad. Forte de 8 700 militaires, policiers et civils, cette force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. N'Djamena est également le quartier général de la force française Barkhane qui se bat contre les au Sahel. Et toujours concernant la guerre contre Boko Haram, Amnesty International demande à la Cour pénale internationale d'engager des poursuites contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués dans des exactions dans le cadre de cette lutte. L'organisation de défense des droits humains basée à Londres dit avoir suffisamment de preuves en ce sens dans un rapport publié hier. Les précisions de Stephen Cockburn, il est le directeur adjoint Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International au micro de Bagassi Koura.
Ce que nous avons découvert, c'est des évidences claires et nettes des crimes de guerre massifs commis par les forces de sécurité nigériennes dans le combat contre Boko Haram. Les chiffres principaux qui sont accablants, nous avons trouvé qu'il y a au moins 7 000 personnes qui sont mortes de faim, de soif, d'asphyxie, des maladies ou même de la torture dans les prisons et les lieux de détention. Plus de 1200 personnes qui ont été exécutées en toute illégalité par l'armée et leurs milices, y compris dans une journée, il y avait plus de 640 personnes, des hommes et des garçons tués après avoir fui une prison suite à une attaque de Boko Haram. Il y avait plus de 20 000 personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement.
Est-ce que vous mettez en cause les hauts commandements de l'armée à Abuja ou peut-être à Lagos dans ces crimes, ou est-ce que ce sont des hommes de terrain seulement qui auraient commis ces actes-là?
Bon, nous avons nommé 9 hauts responsables. C'est vraiment les chefs de l'armée, c'est vraiment les personnes au plus haut niveau qui devraient faire l'objet des enquêtes sur leurs responsabilités, soit individuelles ou soit hiérarchiques. Donc, nous disons qu'il y a assez d'évidence pour faire les enquêtes sur eux, mais nous disons aussi qu'il faut faire les enquêtes sur un nombre plus large de personnes.
Et là, vous demandez au nouveau président de mener des enquêtes pour établir les responsabilités et peut-être prendre des sanctions.
Exactement. Nous avons une opportunité en or maintenant avec l'élection et l'inauguration du président Buhari. Il a déjà dit qu'il veut améliorer la situation des droits humains dans le pays. Donc maintenant, il faut faire preuve de cet engagement. Évidemment, le premier pas dans la résolution d'un problème, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème. Donc maintenant, c'est l'opportunité d'effectuer un changement d'approche, reconnaître la gravité du problème et prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et s'assurer que des comptes soient rendus. Pour nous, ça veut dire qu'il faut ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, y compris sur ceux que nous avons nommés dans le rapport, et mettre fin aux arrestations de masse, mettre fin à la torture, aux exécutions extrajudiciaires et aux conditions de détention inhumaines.
Stephen Cockburn d'Amnesty International était joint à Dakar au Sénégal. Le bilan de l'explosion survenue mercredi à Maïdougouri au Nigeria, la plus grande ville du nord-est du pays, s'élève désormais à 18 morts. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à l'AFP un milicien impliqué dans la lutte contre Boko Haram. Des explosifs semblent avoir été déposés près d'un garage en face d'un bâtiment militaire et plusieurs mécaniciens font partie des victimes. Une autre explosion dans une station d'essence à Accra au Ghana aujourd'hui. Elle a fait au moins 73 morts et de nombreux blessés. Un grand nombre de personnes avaient cherché un abri dans cette station à cause de pluies torrentielles et l'incendie qui a suivi l'explosion s'est propagé à des immeubles voisins dans le centre-ville. Le président John Mahama s'est rendu sur les lieux du désastre et a qualifié les pertes en vue du Zimmen de catastrophe.
VOA Afrique en direct de Washington.
Reprise ce jeudi à Vienne des négociations sur le programme nucléaire iranien, le département d'État américain souligne que l'objectif reste de parvenir au plus tard le 30 juin à un accord définitif limitant les ambitions nucléaires de l'Iran. Timothée Donangmaï.
Les négociateurs du groupe 5 plus 1, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, entameront aujourd'hui des réunions avec la délégation iranienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué hier la porte-parole du département d'État, Mary Haf, que cite l'AFP. Absent à ces négociations suite à son grave accident de vélo dimanche dans les Alpes françaises, le secrétaire d'État américain John Kerry compte être présent à Vienne pour la conclusion de ces négociations. L'Iran et les puissances mondiales ont conclu un accord de principe le 2 avril à Lausanne en Suisse et s'attelleront à Vienne, et cela jusqu'au 30 juin, à l'élaboration du texte définitif.
L'Ukraine a mis en garde aujourd'hui contre la menace gigantesque d'une reprise des attaques des rebelles au lendemain d'une flambée de violence qui a fait 26 morts dans l'est du pays, selon un nouveau bilan. La Russie avertissant de son côté que le processus de paix risquait de voler en éclats. Les combats de mercredi ont été les plus violents en Ukraine depuis la reprise par les rebelles du nœud ferroviaire stratégique de Debaltsev à mi-chemin des bastions séparatifs de Donetsk et de Luhansk peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'était le 15 février. L'Union européenne a fait écho à ces propos, estimant que l'escalade des combats la veille, considérée comme la plus grave violation du cessez-le-feu depuis février, risquait bien d'enclencher une nouvelle spirale de violence en Ukraine. Et pour finir, le scandale de la FIFA, l'Américain Chuck Blazer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, 1996 à 2013 a reconnu que des pots de vin avaient été versés lors des processus d'attribution des Coupes du Monde à la France en 1998 et à l'Afrique du Sud en 2010. Les révélations de M. Blazer, rendues publiques hier par la justice américaine, datent de 2013, quand l'intéressé avait secrètement plaidé coupable à New York de 10 chefs d'inculpation, notamment pour corruption, dans le cadre d'un accord avec l'accusation. Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau bulletin.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.